On peut aller plus loin que Rimbaud aujourd'hui?
On peut se poser la question, est-ce que l'on peut aller plus loin que les illuminations? Vous le dites avec raison. Mais le siècle n'a pas répondu. Il a fait aussi bien, il a fait différent, mais il n'est pas allé plus loin que les illuminations. Pour parler en termes néo-hegeliens des avant-gardes, qu'est-ce qu'il y aurait après les illuminations? On ne sait pas. On n'est pas. Il semble qu'après les illuminations, il n'y a plus que la déconstruction. Il n'y a pas quelque chose qui vienne après, qui soit plus loin, qui aille mieux. D'autre part, on ne peut pas répéter la fulgurance. Et on ne peut pas non plus répéter l'abandon de la littérature.
J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs, une belle gloire d'artiste et de conteur emporté.
Rimbaud n'a pas écrit une œuvre. Il n'a publié qu'un seul livre, Une saison d'enfer, encore ne compte-t-il que 53 pages en comptant les 17 pages blanches. Il l'a, encore l'a-t-il aussi, aussitôt abandonné, il n'en a distribué que 6 exemplaires. Il n'a pas davantage publié que 3 poèmes de son vivant dans des journaux, et même le troisième, Les Corbeaux, dans la Renaissance artistique et littéraire de 1872, il ne l'a pas publié lui-même. Donc il aurait publié 2 poèmes, Les Effarés et 3 baisers en 1870, de lui-même. Qu'est-ce que c'est qu'un poète qui publie 2, qui laisse publier, ou qui publie quand même 3 baisers, Les Effarés, qui publie 2 poèmes dans la presse et une petite plaquette de 53 pages? Qu'est-ce qu'une œuvre à ce moment-là? Le reste, si disons, ce que l'on a recomposé de façon purement fictive, cette fiction que l'on appelle l'œuvre d'Arthur Rimbaud, est en réalité d'abord retrouvé au cours de 65 ans, ou presque d'un siècle, successivement. En 1919, par exemple, on retrouve les mains de Jeanne-Marie, en 1928 seulement, les lettres dites du voyant, en oubliant qu'il en a écrit d'autres le même mois de mai 71, qui sont toutes aussi importantes, et dont Isambard, le professeur, dit qu'elle était la plus importante de toutes celles qui est perdue. Et en 1965, on retrouve la correspondance de 1888. Autrement dit, c'est une œuvre recomposée de façon fictive dans l'ordre des belles lettres. Et une œuvre réellement abandonnée. J'ajoute enfin que Rimbaud a écrit des lettres et que ses poèmes que tout le monde a détachés pour en constituer des livres furent d'abord des, ce que l'on appellerait aujourd'hui des lettres-poèmes. Les lettres contiennent des poèmes ou parfois elles ne forment, comme Les Effarés qu'il envoie à Jean Écart, qu'une lettre. C'est une lettre-poème. Dans le cas d'Arthur Rimbaud, il y a un véritable séisme qui ne permet pas de parler de une vie, virgule, une œuvre. Il y a des gens qui ont fait de leur vie une œuvre. Les saints, les explorateurs, peut-être les dandys, souvent les artisans, les médecins, forment une sorte d'œuvre par leur vie. Ensuite, on pourrait considérer les artistes et les écrivains très nombreux qui ont fait une œuvre à l'exclusion de la vie.
Alors, et Rimbaud ?
Eh bien, il forme la troisième catégorie de ceux pour lesquels on ne peut pas séparer la vie de l'œuvre, c'est-à-dire des artistes pour lesquels l'art n'aura été qu'un moyen, et pour lesquels la vie, d'abord, est l'enjeu fondamental. De sorte que on voit très bien là une autre catégorie qui serait celle de l'œuvre-vie et qui rassemble Rimbaud naturellement, sans doute comme figure de proue de cette catégorie. Et chez Rimbaud, naturellement, la vie même est l'enjeu. Et on ne peut pas non seulement la distinguer d'une œuvre qui serait une sorte de fiction recomposée dans l'ordre des belles lettres, mais encore, on ne peut pas non plus séparer, comme on l'a toujours fait depuis un siècle, la vie de Rimbaud en deux, avec un poète génial d'une part, avec les illuminations dans le regard, selon la belle photo de Carja, et d'autre part, un négociant sombre qui en serait l'opposé. La vie de Rimbaud est d'une magnifique unité, c'est Verlaine qui l'a dit dès 1886, et elle ne se comprend qu'en fonction de ce que l'on appelle, nous, l'œuvre.
Alors, Rimbaud, deux points. Une œuvre, vie.
Oui.
Œuvre avec un petit tiret.
Oui.
Et vie.
Point. Oui, c'est-à-dire en effet la complication et la non-séparation de l'œuvre et de la vie.
On ne part pas. Reprenons les chemins d'ici.
Alors avant de gagner l'Orient, il fait le tour de l'Europe. Et puis l'emmagasine comme bagage toutes les langues aussi.
Oui, mais...
Et le premier ponton, c'est Chypre ?
Non, il n'y a pas de...
Le pont entre l'Occident et l'Orient, c'est Chypre ?
C'est le Saint-Gothard.
Mais c'est, là, le Saint-Gothard, c'est l'ascension. Il fait froid.
Oui,
il souffre.
Il y a le passage de l'autre côté qui
s'est produit. C'est là qu'il va choisir plutôt le chaud, le soleil.
Oui.
Il y a toujours une hantise aussi du froid.
Il y a une sorte de tropisme chez tout individu vers quel côté on penche. Et lui s'est posé la question. Dans un poème, Le pauvre songe, il se demande « Choisirais-je le nord ou le pays des vignes ?» Et il y a cette hésitation dans sa vie. D'abord, il part pour le nord, la Scandinavie, et elle vient en écho, la Scandinavie blanche, des premiers poèmes comme Ophélie, les vents de Norvège. Tu avais parlé tout bas de l'âpre liberté, les vents de Norvège. Et il va les entendre, les écouter là-bas, en Norvège, en Suède. Et puis, il n'y a pas d'après là non plus, parce que cette exploration du monde, qui avait commencé par son propre département, continue et s'étend en effet vers la patrie originelle, toujours annoncée, toujours recherchée, dès Charleville, parce que l'Orient n'est pas en Orient. L'Orient est dans le port de Charleville, où passent les grands bateaux qu'il lit dans le magasin pittoresque. Et l'Orient est déjà là aussi à l'origine. Et il n'est pas là réellement quand il y arrive. Alors, il n'y a au fond qu'une seule coupure du reste dans sa vie, si on veut vraiment parler de coupure, pour n'y rien comprendre, car si on découpe, on n'y comprend rien du tout, eh bien, c'est 1879. Parce qu'en effet, là, il y a un hiver absolument rigoureux, effrayant, dont il ne se remettra jamais, et dont il parlera toute sa vie, dans toutes ses lettres. Il ne veut plus connaître le froid de 1879 en Ardennes. Et il s'habitue, il devient, comme dira Ségalène, un prototype de résistance à la chaleur, s'habitue progressivement au soleil tout en râlant contre les chaleurs excessives de Chypre où il fait 80 degrés. Là, il exagère d'ailleurs, mais enfin, il pense qu'il fait 80 degrés ou en Abyssinie où le climat ou Harare est plus doux. Mais sur les bords de la mer Rouge, la chaleur est vraiment thermonucléaire, hein, au Bock en particulier. Alors il y a cette attraction solaire qui ne fait que s'accroître en effet, mais qui ne définit pas du tout un avant et un après. C'est simplement la recherche infinie du lieu dans la Scandinavie ou en Orient qui font que le monde est toujours blanc et que le monde est nul et qu'il n'y a rien à voir fondamentalement.
Il a préféré l'autre à jeu. C'est-à-dire qu'il a suivi la piste de l'autre qu'est le jeu.
Il hésite aussi entre le progrès et l'archaïsme. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas aux États-Unis, à Rimbaud ? Pourquoi est-ce qu'il choisit l'Afrique ?
Attention, dans l'archaïsme, il n'y a pas nécessairement une opposition entre le progrès et l'archaïsme. L'arché, au sens grec, est la plus belle chose, c'est-à-dire c'est ce qui permet quand même de concevoir le pont. Et autre chose est la vieillerie, l'esprit moderne. Mais en effet, on pourrait penser qu'en 1880, dans ces années-là, se trouve réuni aux États-Unis tout ce qui passionne. Il y a d'abord, je crois, 9 ou 10 millions d'immigrés aux États-Unis, justement dans cette période-là, et puis d'immenses espaces, la recherche de l'or, le trafic des armes, quoiqu'il n'ait jamais fait de trafic au sens littéral. Il y a aussi la liberté libre, un peu trop libre, des cow-boys, puisqu'au fond, Billy the Kid, par exemple, est tout à fait contemporain, 1886, et Rimbaud a parlé une fois à Delahaye d'un désir de voyage pour les États-Unis. Tout simplement, ce n'est pas sa direction. Le Far West n'est pas du tout sa direction. Son vrai tropisme, c'est l'Orient. L'Orient, c'est la patrie originale. C'est de ce côté-là que penche le poète qui cherche l'origine. Et l'origine, c'est ce qui fuit. On sait que c'est ce qui est le plus lointain. On sait que l'origine, c'est ce qui est devant nous. Et le tropisme de Rimbaud, c'est vers l'origine, c'est-à-dire, on le retrouve aussi dans sa poésie, vers le désir du pays vierge, du pays dans lequel on pourra se retrouver pur originellement, avec un nouveau corps et délivré de la damnation. Or, précisément, l'Afrique qui l'attire aussi pour la chaleur, concrètement, et pour ces terres inconnues qu'elles étaient à l'époque, puisqu'on découvre peu avant les sources du Nil ou l'Australie.
C'est un ventre, en fait, hein, cette Afrique. Hein.
C'est, oui, il y a une dimension maternelle, bien sûr, dont le siècle a pris conscience maintenant, mais qui était aussi mythologique. C'est-à-dire une direction vers laquelle on a une chance de se refaire, de trouver de l'inconnu, mais aussi, pas seulement ces terra incognitae que furent l'Éthiopie, qui n'était pas encore visitée à l'époque, mais aussi la possibilité donc d'un autre corps. Et elle n'est pas dite chez Rimbaud, elle est là simplement sans cesse. Et probablement elle n'est pas sue de sa part. Mais c'est ce qu'il dit de plus clairement. Et c'est ce qui ne manque pas dans ce qu'il ne dit pas.
Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan.
Il y a une sorte d'amnésie volontaire de tout ce qu'il a déjà accompli parce qu'il est projeté en avant.
Alain Jouffroy.
Le poète sera en avant. Eh bien, c'est cet en avant qui est son mot d'ordre poétique et qui le porte tout naturellement hors de la poésie écrite. Alors, qu'est-ce que c'est que la poésie non écrite ? Tout le mystère est là. C'est-à-dire, peut-on considérer qu'un homme qui a génialement recréé la poésie, en cessant d'écrire, cesse d'être un poète ? Pour moi, non. On peut être un poète toute sa vie sans écrire une ligne de poésie.
Je vous conjure de ne pas me faire manquer de ce que je vous demande. Album des scieries forestières et agricoles, le livre de poche du charpentier, traité de métallurgie, hydraulique, urbaine et agricole, commandant de navires à vapeur, architecture navale, poudres et salpêtres, minéralogie, maçonnerie, puis artésien, instruction sur l'établissement des scieries, matière textile, album des scieries agricoles et forestières, catalogue illustré de machines agricoles, manuel du charron, manuel du tanneur, le parfait serrurier, exploitation des mines, manuel du verrier, briquetier, faïencier, potier, fondeur en tous métaux, fabricant de bougies, guide de l'armurier, catalogue complet de la librairie de l'école centrale, manuel du voyageur, instruction pour les voyageurs préparateurs, Le Ciel par Guillemin, annuaire du bureau des longitudes pour 1882, traité complet des chemins de fer, manuel pratique des poseurs de voies de chemin de fer, marché de terrassement, tunnels et souterrains, la meilleure traduction française du Coran, dictionnaire de commerce et de navigation, dictionnaire de la langue Amhara.
Quand il a commandé un appareil de photographie pour faire de la photographie au Harare, c'était le plus performant de tous les appareils de photographie de l'époque. Quand il a acheté un livre technique, c'était le dernier qui était paru sur une question technique. Celui qui avait paru l'an dernier était pour lui périmé. Toujours en avant. Toujours être là, là, à l'affût de ce qui est en train d'arriver, de ce qui va arriver demain.
Mais il laisse tout tomber à chaque fois, l'appareil de photo.
Il laisse tout tomber, oui. Parce que toujours en avant. Jamais en arrière. Et une fois qu'il a expérimenté la photo, il en a fait vite le tour et il s'intéresse à autre chose. Et puis c'est tout. Il a abandonné son livre, son projet de livre sur le Harare et les Galas. Et pourtant, il y a songé, puisqu'il part encore à la fin de faire un curieux album de toute son expérience du Harare. Donc il n'abandonne pas l'idée du livre.
Alors, on peut voir ce qu'il a fait avec son appareil de photo.
Ben, on peut voir.
Enfin, voir
mentalement.
Oui.
Ben, il est au Harare, donc il est dans la maison Bardet, et, du Harare, hein, et non pas celle d'Aden. Et là, d'abord, il aime le pays, il trouve très beau, c'est haut plateau, c'est vrai qu'il y a des grands arbres, c'est magnifique, c'est fertile, c'est pas du tout comme Aden, qui est une ville. Bâti dans un cratère de volcan éteint.
C'est le trou, Aden.
Un affreux trou, comme il dit, etc.
Toujours affreux. Ça, c'est... Dans le sens de prison aussi.
Oui, aussi. Et puis, vous savez, Rimbaud, il adore dire du mal des choses, y compris de celles qu'il aime. Et toujours, c'est des affreux crétins, tout le monde est un imbécile. Les choses ne sont jamais à la hauteur de son espérance. Et une fois qu'il est là, Il est content d'être au Harare, mais en même temps, il s'en lasse vite. Il songe tout de suite à revenir à Aden. Puis quand il est à Aden, il veut repartir au Harare. Et puis quand il est au Harare, il veut aller à Djibouti. Et puis il veut aller à Zanzibar. Et puis il veut aller en Inde. Et puis il veut aller en Chine. Puis au Japon même, il dit. Il ne cesse de projeter en avant tous ses désirs. Donc avec son appareil de photo, il fait d'abord le travail qui consiste le minimum. Il photographie magnifiquement d'ailleurs l'intérieur de la cour de son agence. Il y a une très belle photo avec un pilier et un homme assis par terre qui recrée parfaitement l'atmosphère de son agence, sans doute. Et puis il fait le marché, il rate la photo, elle est complètement brouillée. Et il fait 3 autoportraits qu'il envoie à sa famille pour leur montrer à quel point il a vieilli précocement. Et il est à distance. Et c'est vrai que les photos sont légèrement floues, mais quand même on se rend compte d'une présence tendue, vigilante, d'un homme fier et solitaire, quoi. C'est ça le portrait qu'il veut donner de lui.
Alors avec ces photos, il veut faire un album, c'est-à-dire plus de texte.
Non, il dit qu'il veut intercaler les photographies. Donc ça, c'est une conception très moderne, très très nouvelle.
Solde. À vendre ce que les Juifs n'ont pas vendu, ce que noblesse ni crime n'ont goûté. Ce qu'ignore l'amour maudit et la probité infernale des masses. Ce que le temps ni la science n'ont pas à reconnaître. À vendre les corps sans prix, hors de toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance. Les richesses jaillissant à chaque démarche. Solde de diamants sans contrôle.
Il n'a pas été négociant. C'est une erreur qui peut se vérifier aisément. En Abyssinie, de 1880 à 91, ce qui ne forme pas du tout une deuxième partie de la vie. Et il y a 3 périodes différentes, au cours desquelles seulement, dans la troisième, il aura survécu, malgré lui d'ailleurs, du commerce, mais il n'a pas été commerçant non plus, il n'a pas été quelque chose. C'est ce qui est d'ailleurs très beau, c'est que du début à la fin, il aurait été, on peut se mettre d'accord pour dire qu'il a été vagabond, errant, recherchant toujours le lieu et la formule, mais en aucun cas il n'a été quelque chose.
Lettre à sa mère et à sa sœur, Harare, le 25 février 1890. Ne vous étonnez pas que je ne vous écrive guère. Le principal motif serait que je ne trouve jamais rien d'intéressant à dire. Car lorsqu'on est dans des pays comme ceux-ci, on a plus à demander qu'à dire. Des déserts peuplés de nègres stupides, sans route, sans courrier, sans voyageurs. Que voulez-vous qu'on vous écrive de là, qu'on s'ennuie, qu'on s'embête, qu'on s'abrutit, qu'on en a assez, mais qu'on ne peut pas en finir, etc., etc. Voilà tout, tout ce qu'on peut dire, par conséquent. Et comme ça n'amuse pas non plus les autres, il faut se taire. On massacre en effet et l'on pille pas mal dans ces parages. Heureusement que je ne me suis pas encore trouvé à ces occasions-là. Je compte bien ne pas laisser ma peau par ici. Ce serait bête. Je jouis du reste dans le pays et sur la route d'une certaine considération due à mes procédés humains. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Au contraire, je fais un peu de bien quand j'en trouve l'occasion et c'est mon seul plaisir.
Vous le voyez comme un singe, Alain Geoffroy, Rimbaud. C'est un singe ?
C'est un sage dans le sens où il connaît sa propre folie, où il a essayé de la contrôler toute sa vie. Mais il sait qu'il est fou. Il sait qu'il connaît sa folie. Et il fait tout pour la dominer, la guider, l'orienter, dans tous les sens du mot. Orienter sa folie. Quand il dit qu'il se plaint, n'est-ce pas, au Harare, il dit que tout est affreux, qu'il s'ennuie atrocement, qu'il devient crétin, qu'il n'y a aucune vie intellectuelle là-bas, etc., etc. Bon. Et puis, il ajoute une fois, il dit, vous direz que je me plains comme Jérémie, mais vous savez, pour moi, me plaindre, c'est une manière de chanter. Humour, quand même. Hein?
Alain Borer, Rimbaud est-il un mystique?
Il faut s'entendre sur le cas de Mystique, parce que c'est un label de 1912 qui était attribué par un Paul Claudel parfaitement épiscopal dans cette époque-là.
Il y a tout le chemin de croix quand même. L'autopunition,
C'est une
Tout
question délicate, mais en fait assez claire. Il y a en effet une dimension chrétienne qui est donnée, qui est sa culture, et qui se traduit notamment par la fameuse culpabilité, qui en est un des domaines spécifiques, la culpabilité. On ne comprend pas, je crois, l'œuvre-vie d'Arthur Rimbaud si l'on considère que la culpabilité vient après quoi que ce soit. Pourtant, c'est facile à penser. On pourrait croire qu'après son encrapulement de 1871 et la tentative de la voyance, Rimbaud s'encrapule et ensuite en conçoit une sorte de honte ou sinon de culpabilité. Alors, on pourrait voir en Abyssinie le désir de se racheter, de redevenir straight, comme disent les Américains. C'est tout à fait faux. Parce que ce n'est pas en 1875, ce n'est pas avec la saison en enfer en 73, ce n'est pas à quelque date que ce soit que commence la culpabilité. Elle est aussi une donnée originelle. Elle se trouve, cette culpabilité, ce refus aussi de la culpabilité, c'est-à-dire la protestation d'innocence, le « je suis innocent », je vis un crime que je tombe au néant, c'est une chose originale. Il est profondément, enfin, il se conçoit comme pur, c'est-à-dire innocent de la tare originale. Eh bien, elle se trouve en 1864 dans les cahiers de Conspecto. Et lorsque Rimbaud, en 1891, dit à sa sœur Isabelle, qui lui demandait pourquoi as-tu cessé d'écrire, il aurait répondu parce que c'était mal. Ce parce que c'était mal n'a qu'un sens et il se comprend aisément. Parce que c'était mal, sous-entendu, de ne pas travailler. Et au fond, on est condamné, surtout quand on est né en Ardennes, en 19e siècle, dans des pays de misère et de travail, en pays rural et chrétien, on est condamné dès l'origine au travail. Et c'est cette donnée originale qui fait de lui une sorte de mystique, mais pas du tout dans l'ordre chrétien, contre l'esprit chrétien, et davantage même contre l'esprit de toutes les religions du salut. C'est un contresens parfait de parler d'islam dans son cas, car les religions du salut, tout simplement, promettent leur repos, c'est-à-dire leur paradis, après la mort. Mais ce n'est pas du tout ce qui intéresse le damné par l'arc-en-ciel que fut Arthur Rimbaud. Ce n'est pas du tout ce qui concerne le nègre qu'il reste du début à la fin de sa vie. Ce nègre conscient d'être un nègre, ce non-blanc, celui qui sait qu'il est de race maudite, exige le paradis des religions, chrétiennes ou islamiques ou autres, peu importe, sur terre, durablement, maintenant. Qu'il vienne le temps dont on s'éprenne. L'éternité, il la désire de toute son âme, de tout son corps, mais physiquement, sur terre, durablement. Et voilà le grand échec des religions. Voilà en quoi il est mystique, mais contre les religions du salut. C'est-à-dire qu'il faut aussi étendre le mot mystique, qui n'est pas assez précis, il faut l'étendre pas seulement, surtout pas seulement à l'œuvre, mais aussi à la vie, à l'œuvre-vie entière, et comme une exigence qui en marque à la fois la limite et la brûlure et aussi la grandeur.
Le Coran, il a tout de même étudié, puisqu'il a parlé l'arabe, et il l'avait très probablement étudié dans la version de son père, parce que son père était capitaine, enfin lieutenant d'abord en Algérie, pendant la conquête d'Algérie, et était chef du bureau arabe de Sebdou. Il faisait des rapports très bien écrits. Le père parle d'ailleurs des Arabes d'une manière très digne et sans préjugés. Il compatit à leur malheur quand ils sont malades, etc. Et il décrit magnifiquement, par exemple, une invasion de sauterelles. Enfin, c'est un homme doué pour écrire.
Est-ce que Rimbaud reprend les traces de son père?
Alors, oui, c'est curieux ce qu'on a fait avec son père, parce qu'on parle toujours de la tyrannie que Moser, n'est-ce pas, la maman tyrannique. Mais il ne parle jamais de son père, sauf dans un tout petit cahier d'écolier qu'on a retrouvé. Il en fait un portrait d'ailleurs assez curieux, comme d'un homme qu'il aimait. Et puis il en parle aussi dans l'album Zutique, dans un poème érotique, curieusement, qui s'appelle « Les remembrances d'un vieillard idiot », où il parle de la queue de son père, en quelque sorte, dont il approche les genoux. Alors, tout se passe comme si son père était son secret personnel. Et comme s'il suivait la piste mentale, enfin, mentalement, il suit, et physiquement, finalement, il suit la piste de son père. La seule chose qu'il n'aime pas, c'est l'uniforme. Ça n'empêche pas de s'être engagé une fois dans la Légion étrangère hollandaise pour aller jusqu'à Batavia. Mais il déserte au bout d'un mois. Et finalement, il n'a qu'une peur jusqu'au bout, c'est d'être récupéré par le service militaire. Donc, haine du service militaire, haine de l'uniforme. Les uniformes le font rire, même quand il revient en France avec une jambe en moins pour retourner à Charleville. Quand il est dans une gare, on dit qu'il éclate de rire en voyant un officier, alors que la jambe est coupée. Donc, probablement, il trouvait les militaires assez ridicules. Ça ne l'empêche pas, son père étant ce qu'il fut, c'est-à-dire un spécialiste en quelque sorte du monde arabe, de s'intéresser très tôt à la culture arabe, et le nombre d'allusions à l'Orient qu'il y a dans ses poèmes est incroyable. Donc, l'Orient est lié à son père d'une certaine manière. Et le fait que son père ait disparu très tôt de la famille, il ne fait que le réitérer. Il disparaît de la famille comme son père a laissé tomber sa mère. Arthur continue le papa. Mine de rien, sans le dire.
Alors, Tadjoura, 1886, que des cailloux, une mosquée blanche, un bouquet de palmiers. Sous ce bouquet de palmiers sont enterrés les 3000 fusils Remington de Paul Soleillet, puis les deux associés de Rimbaud, Paul Labattu et Paul Soleillet, vont décéder dans cette année 86, et Rimbaud, bien décidé à faire fortune au plus vite, dans le but de se reposer, pas dans le but de gagner de l'argent, mais toutes ces lettres le disent, dans le but de se reposer, c'est-à-dire d'atteindre cette dimension qui est dans la poésie et qui est inaccessible, s'est engagé donc à vendre à Ménélik des armes. Pour celui qui veut s'en sortir, car il s'agit de ça, dans cette forme actuelle, de s'en sortir, la seule formule, pour parler comme Rimbaud, la seule formule, c'était de vendre des armes dans ce pays. Il part tout seul, avec ses 100 chameaux marqués, brûlés, R sur la cuisse, et chargés de ses fusils, qui sont de vieux fusils réformés, belges, et aussi quelques Remington, et quelques dizaines de milliers de cartouches. Il décrit remarquablement, quand je dis remarquablement, ces étapes, c'est pas sur le plan littéraire, mais dans une remarquable, une admirable prose géographique. Vous savez, c'est-à-dire une prose sans état d'âme, une prose de celui qui regarde techniquement les paysages. Et cela, ce n'est pas nouveau non plus. Lorsqu'il était à Roche en 1879, il commentait la façon dont on ensemence les champs, et comme toujours, à son avis, c'était mal fait. Et on peut imaginer que ce fut une expédition donc très extrêmement périlleuse, extrêmement courageuse et menée à bien. Elle arrive donc en février à Faré, et puis Rimbaud alors retrouve sa malchance, sa guigne. Elle l'attend avec le visage de Ménélik. Ménélik avec son châle et son chapeau de Quaker, et le visage marqué de la petite vérole, et l'œil, disons, malicieux au moins, qu'on lui connaît par certaines photos de Paulitschke. Ménélik l'attend, et il est à lui seul la bourse des valeurs de l'Éthiopie, de l'Abyssinie qu'il vient de réunifier, il est tout puissant, et il n'a plus besoin de fusil. D'abord, les Italiens ont fait avec lui des tractations, lui ont quasiment offert des fusils. Il va d'ailleurs les utiliser contre les Italiens à la défaite d'Adwa, qui est la première victoire africaine contre un pays européen, une défaite extrêmement cuisante contre les Italiens. Et il n'a plus besoin de fusil, alors il sait en user. Et lorsque ce jeune Ardennais arrive à 32 ans devant lui, parlant très bien la marinia, le romo, l'arabe, il sait le mettre dans sa poche, lui faire valoir des créances, auxquelles du reste Rimbaud n'avait pas à donner suite, mais qu'il honore quand même. Il faut le dire par esprit d'honnêteté et même de générosité. On peut reconnaître des traces explicite et des témoignages de générosité et d'honnêteté, enfin toutes les qualités qu'il ne fallait pas pour faire fortune devant Ménélik. Et Ménélik le roule de façon assez scandaleuse. Enfin, il le roule et Rimbaud redevient... D'abord, il n'a pas d'argent. Ménélik prétend ne pas en avoir. Et il va lui dire, va te faire payer au diable, c'est-à-dire à Harar. Et Rimbaud doit retourner à Harar et regarder la carte. C'est un voyage extrêmement dangereux parce qu'à cette époque, le pays est en plein marasme. Et on trouve, comme on le retrouve en ce moment même, des famines gigantesques. C'est une période que Rimbaud décrit comme un cloaque. Et il doit traverser toujours au galop ce pays, depuis le Shoah jusqu'au Harar, pour se faire payer. Mais il ne va pas réussir non plus à se faire payer, de sorte qu'à la fin de cette aventure, que je résume trop rapidement, parce que du reste on n'a pas tellement d'autres détails, sinon qu'elle a duré au moins 6 mois et qu'elle fut fantastiquement dangereuse, Il se retrouve avec les 15 000 francs qu'il avait à son départ. C'est une véritable catastrophe et en plus, il est épuisé. Mais alors, on peut imaginer à quel point il est épuisé si l'on regarde le trajet et toutes les difficultés qu'il a dû surmonter. C'est cet homme épuisé qui va aller se reposer, comme il dit, au Caire en 1887. Et à ce moment-là, il va commettre la pire erreur de sa vie.
Laquelle ?
En 1887, il aurait dû partir pour le Japon, pour Zanzibar, toujours pour l'Orient, pour les Indes, comme il en avait l'occasion. Et c'est une erreur tragique que de retourner au Harar, dans le piège. C'est seulement à ce moment-là qu'il devient, disons, commerçant. Il reste le seul et unique commerçant à Harar. Tous les autres sont à Ankober, à Tadjoura ou à Aden. Il est le seul commerçant. Et il n'aura de cesse jusqu'en 1891. On ne le remarque pas assez d'être toujours persécuté par les créanciers de ses premiers associés qui sont morts et de l'abattu en particulier. En février 1891, il y a encore des gens qui viennent le faire payer des fausses dettes, des créances de l'abattu en 86-7. Et il sera absolument prisonnier de cette région où il est le seul européen, il sera le seul prisonnier. Il n'y a plus d'argent liquide au Harar de 87 à 91. Il est victime d'extorsion de fonds, de ce qu'on appelle aujourd'hui un racket des autorités. Il est extrêmement malheureux et il est le Rimbaud perdant de la fin de sa vie, mais c'est seulement de 87 à 91 qu'il est prisonnier et piégé, tout à fait piégé, terriblement piégé au Harar, alors qu'il avait connu la liberté, l'aventure, quelques années avant, en 87, le voici perdu et il va en mourir.
L'idée, c'est le programme, au fond, qu'il avait déjà imaginé sans, dans une saison d'enfer, l'idée de revenir comme un féroce infirme des pays chauds, et puis là, de s'installer avec le magot qu'il aurait rapporté de ces pays chauds. Effectivement, dans la vraie vie de Rimbaud, il y a eu ça. Et même au moment où sa sœur s'occupe de lui, à la fin, elle note, mais peut-être c'est la tentation qu'elle a toujours eue de vouloir donner une image édifiante de son frère, mais enfin elle note qu'il revient avec insistance au projet qu'il a plusieurs fois manifesté dans ses lettres d'épouser quelqu'un. Enfin,
De s'établir.
De s'établir, oui. Alors là, il n'est plus question tellement d'amour, il est question d'établissement, oui. Je crois que sa vraie idée, c'était plutôt d'avoir un fils. Ça, c'est très important. Un fils qui serait devenu, aujourd'hui, on dirait un surdoué. Il en aurait fait un surdoué, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait essayé de faire une sorte d'encyclopédie vivante et surtout, quelqu'un qui ne serait pas resté dans le savoir théorique, mais dans le savoir pratique, qui aurait été une sorte de super ingénieur. Un personnage comme le... C'est le côté Jules Verne de Rimbaud. Là. C'est un personnage qui aurait été comme le capitaine Nemo, c'est-à-dire un homme qui sait beaucoup et qui agit sur le monde, une sorte d'incarnation du rêve cartésien de l'homme maître et possesseur de la nature. Le capitaine Nemo, c'est ça. Et dans son sous-marin, il devient une sorte de démiurge. Et je crois que le rêve de Rimbaud, ça aurait été d'avoir un fils qui aurait été comme ça, qui aurait réalisé tout ce que lui... a commencé d'une certaine façon. Quand il se fait envoyer en Éthiopie tous ces livres, les domaines de la connaissance les plus variés, et surtout les domaines de la technique les plus variés, il y a une aspiration à un côté polytechnicien au sens étymologique. Et ça aurait été le fils qui aurait été censé réaliser ce rêve-là.
Pour l'exposition universelle, il est tenté, parce que l'exposition universelle, quand même, pour lui, ça représente beaucoup, c'est toute la modernité, là. Donc, il a envie. Et il dit, ce sera pour la prochaine fois. Et d'ailleurs, il a cette blague formidable. Il dit, je m'exposerai moi-même à l'exposition universelle parce que je dois être bien, je semblerai bien curieux pour les Européens avec mes produits autour de moi. Donc, quel formidable humour. Il veut s'exposer lui-même. Mais il n'y va pas.
Alors après Charleville, été 91 et Marseille, novembre 91. Alors entre les deux, qu'est-ce qui se passe ?
Il revient à Marseille parce que les douleurs sont devenues absolument insupportables. Sa sœur a raconté dans un texte très bouleversant le dernier voyage, ça s'appelle comme ça, le dernier voyage de Rimbaud, de Charleville à Marseille, de Vonc, la petite gare de Vonc à Marseille. Et c'est un texte très bouleversant parce que il y a d'abord le paroxysme de la douleur et de la souffrance physique et morale, mais aussi parce que l'on reconnaît le Rimbaud de toujours, tel qu'il a toujours été, ce Rimbaud qui se sait nègre et qui rit, mais qui ricane, et qui ricane très fort, devant par exemple le parterre de Marguerite entretenu par le chef de garde Vonck. Il faut imaginer ce rire de Rimbaud devant l'officier qu'il rencontre ensuite à la gare de Lyon. Et sa sœur nous dit qu'il fut pris d'une navrante gaieté, c'est-à-dire qu'il a ri très fort avec ce ricanement qui était déjà celui de la saison d'enfer et qui a toujours été là devant un officier, devant le ridicule et la petitesse de l'esprit bourgeois, devant ceux qui se croient quelque chose. Et il y a ce rire du nègre et aussi de celui qui revient, du féroce infirme qui revient des pays chauds et qui ne comprend pas comment on peut être resté à ce point étroit et ridicule et grotesque. Et ce rire-là est sans doute le premier rire du XXe siècle.
Rimbaud, c'est l'insomniaque de toujours, l'insomniaque à jamais.
Oui, ça c'est un petit texte que j'ai inventé et que j'ai prêté à André Pillard de Mandiargue en essayant de pasticher son style. C'est un hommage, bien entendu. Et puisque j'imagine que le jeune André-Pierre de Mandiargue, va visiter Rimbaud à Charleville au moment où celui-ci arrive à la fin de sa vie. Et Mandiargue fait cette remarque, insomniaque à jamais. Oui, je crois que si Rimbaud avait vraiment vécu jusqu'à 80 ans, il aurait très peu dormi, il aurait été constamment inquiet et constamment insomniaque.
Il meurt comment, votre Rimbaud ?
De vieillesse, peut-être, tout simplement. Ou d'une dernière inquiétude.
Laquelle ?
Celle de, peut-être, se demander s'il n'aurait pas mieux fait de mourir à 37 ans.
Au directeur des messageries maritimes, Marseille, 9 novembre 1891. Un lot, une dent seule. Un lot, deux dents. Un lot, trois dents. Un lot, quatre dents. Un lot, deux dents. Monsieur le directeur, je viens vous demander si je n'ai rien laissé à votre compte. Je désire changer aujourd'hui de ce service-ci, dont je ne connais même pas le nom, mais en tout cas que ce soit le service d'affinard. Tous ces services sont là partout, et moi, impotent, malheureux, je ne peux rien trouver. Le premier chien dans la rue vous dira cela. Envoyez-moi donc le prix des services d'affinard à Suez. Je suis complètement paralysé, donc je désire me trouver de bonne heure à bord. Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord.
Une vie, une œuvre, Arthur Rimbaud, par Pascal Charpentier. Avec Dominique Noguez, Michel Deguy, Alain Borer, Alain Jouffroy et Jean-Marie Turpin. Les voix de Philippe Demarle et Maurice Garel. Mixage, Agnès Warnier, Mireille François. Chargée de réalisation, Christine Berlamont.